Chapitre 4. Quand j'avais été prisonnier, mon demi-frère Richard avait fait d'innombrables démarches en ma faveur. Richard n'était pas le frère que je rêvais, c'est-à-dire qui m'eût protégé et qui m'eût mis en garde contre ceux dont je ne voyais pas la méchanceté. Comme il était resté au début sans nouvelles, il avait cru que j'avais été tué. Il avait consulté toutes les listes possibles. Il avait adressé des lettres recommandées un peu partout. Il me semble qu'en pareil cas, on ne fait rien pour connaître la vérité. Il en était tout autrement avec lui. Il avait exagéré l'intérêt qu'il me portait. Il s'en était servi pour apitoyer tout le monde. Il ne pouvait soi-disant pas rester plus longtemps dans l'incertitude. Il vivait un supplice affreux. Rien n'était plus cruel que le doute. Il feignait de croire, quand on lui disait qu'on ne pouvait pas le renseigner, qu'on lui cachait la vérité. Il suppliait qu'on ne le ménageât pas. Il jurait qu'il aurait la force de supporter la plus grave nouvelle, et il répétait encore qu'il préférait tout à l'ignorance. Puis, quand il avait appris que j'étais prisonnier, il avait commencé les démarches les plus insensées pour me faire libérer. Il avait couru partout, fait établir des certificats couverts de visas, obtenu des attestations de toutes sortes, mis en demeure des gens qui me trouvaient sympathiques comme le directeur du contentieux de la Nationale, mais qui enfin n'avaient aucun intérêt particulier à se donner du mal pour moi, à agir, leur reprochant finalement leur mollesse. Ils me glissaient dans les colis des messages, ils m'écrivaient d'une écriture minuscule d'interminables lettres sous les étiquettes des boîtes de conserve, et chaque fois je tremblais, ignorant moi-même le procédé nouveau qu'il employait. C'était bien à contre-cœur que j'allais le voir, car avec tout le bruit qu'il avait fait à mon sujet, il n'eût pas été étonnant qu'il eût déjà reçu la visite de la police à mon sujet. Mais il avait dû apprendre que j'étais à Paris, et si je ne lui donnais aucun signe d'existence, il allait se remettre en mouvement, toujours soi-disant dans mon intérêt. Il ferait semblant de croire que je ne savais pas me défendre, que comme toujours j'étais perdu aussitôt que je me trouvais en présence des difficultés de la vie. Il faut ajouter que mon demi-frère avait ceci de redoutable, qu'il ne craignait pas de faire appel aux autorités dès qu'il s'agissait du bien des gens. Je croyais l'entendre, disant à la police qu'il était très inquiet, qu'il savait que j'avais des ennuis, et qu'il craignait que justement, à cause de cela, on ne m'eût fait un mauvais coup. J'avais disparu. L'anxiété l'empêchait de dormir. Faites des recherches, tâchez de savoir. Je lui dis que j'allais très bien et, malgré son insistance, je ne lui donnais pas mon adresse. Je lui dis que j'habitais chez des amis et que je devais partir le lendemain. Il voulut savoir quels amis. Je lui dis qu'il ne les connaissait pas, que leur nom ne lui dirait rien, et je répétais que je les quittais le lendemain. Par la suite, chaque fois que je rencontrais des gens qui l'approchaient, je leur recommandais de ne pas lui parler de moi, à leur grand étonnement d'ailleurs. Mais je leur expliquais que, dans son désir de bien faire, Richard pouvait commettre une imprudence. Je n'étais pourtant pas tranquille. J'appris plus tard qu'il était de nouveau à ma recherche. Il disait à tout le monde que je lui cachais quelque chose pour ne pas lui faire de peine. Il aurait, paraît-il, laissé entendre qu'il savait bien que c'était très grave. J'en étais toujours à me demander ce que je devais faire lorsque mon père vint un matin me chercher pour me conduire chez Mondanel. Chaque fois que j'avais commis une faute dans ma vie, il m'avait toujours conduit chez ceux qui en avaient été les victimes. Chaque fois que j'avais couru un danger, il avait toujours cru qu'il n'y avait pas de meilleur moyen de m'être utile que de m'accompagner chez ceux-mêmes qui me menaçaient. Nous allâmes à pied jusqu'à la préfecture de police en suivant le boulevard Sébastopol. Rien n'est plus désagréable que ces démarches à deux. Il s'en dégage une impression pénible de gravité qu'aggrave encore le fait qu'on ne peut y renoncer. Je me disais, pour me rassurer, que même si Mondanel ne jugeait pas ma situation avec le même optimisme que mon père, le fait que nous allions le voir en ami l'obligeait à ne prendre aucune décision qui pût m'être hostile. Il pouvait nous dire de ne plus revenir, mais il était tenu de nous bien recevoir. Bientôt nous arrivâmes devant la préfecture. Des agents montaient la garde. Leur rôle n'avait en réalité pas une grande raison d'être puisque les Allemands étaient les maîtres. On le sentait, un certain relâchement dans leur attitude, à une sorte de discrétion qui montrait qu'ils ne savaient jamais très bien si les gens qui entraient ou sortaient eussent accepté une observation. Nous traversâmes une cour, puis une autre. nous nous engageâmes dans un escalier étroit que seuls les fonctionnaires devaient emprunter. Ce côté peu officiel de notre démarche me mit en confiance. Je me disais qu'en nous présentant comme nous le faisions, Mondanel ne pouvait nous considérer que comme des amis, qu'il lui serait plus facile de nous conseiller sans s'engager en tant que directeur de son service. J'étais impatient de me trouver en sa présence pour me rendre compte par moi-même de sa gentillesse. Mon père m'avait bien dit qu'il était gentil, mais quelquefois aucune sympathie ne naît en nous pour ces gens dépeints comme devant être gentils. C'est pourquoi je demandais toujours plusieurs fois avant de voir un inconnu « Est-ce qu'il est gentil ?»« Oui, très gentil », me répondait-on, et cela finissait par me rassurer. J'attendais au fond beaucoup de Mondanel. Quand on nous affirme qu'un homme fera tout ce qu'il faut et qu'on a de l'imagination, il est permis de supposer les choses les plus extraordinaires. Mondanel occupait seul un de ces bureaux minuscules qui, dans les administrations, donnent une impression de puissance occulte. Mon père s'assit, je restais debout, car il n'y avait pas d'autre chaise. Mon père avait raison. M. Mondanel était en effet très gentil. C'était un homme petit, chauve, portant des lunettes. Dès mon arrivée, il avait tout de suite compris que mon père allait lui demander un service pour moi, et il me regardait avec une bienveillance anticipée. On sentait dans son amabilité que le grief qu'on aurait pu lui faire d'être resté à son poste sous la domination allemande ne lui venait même pas à l'esprit. Le point où cette domination pesait sur l'administration dont il faisait partie était trop lointain pour être perceptible. Il eût été bien étonné si on lui eût reproché quelque chose. Il manquait simplement de caractère. Il parlait en homme indépendant, comme si rien ne s'était passé. Les Allemands avaient beau être là, il estimait que rien n'était changé. Le fait était admis de tous. Maintenant, il ne restait plus qu'à inspirer du respect à nos vainqueurs, à leur montrer que nous n'étions pas des nigauds, que nous savions nous adapter à la réalité. Il témoigna beaucoup d'amitié à mon père. Pour nous montrer sa confiance, il parla devant nous à ses subordonnés, téléphona, ne cacha rien des secrets officiels, si bien que je craignis qu'une fuite se produisant par la suite, je fus soupçonné. Mais ce n'était pas de vrais secrets. Mon père lui parla longuement de moi, lui raconta mon histoire, ou du moins ce qu'il pensait être mon histoire, car je m'étais bien gardé de tout lui dire. Il me faisait un peu de peine, en croyant tellement à cette amitié, en paraissant s'imaginer qu'on peut tout attendre d'une personne par le seul fait qu'elle est de votre famille, ou qu'on l'a toujours connue. Je me félicitais de ne pas lui avoir dit que j'avais tué deux sentinelles. Je le lui avais laissé entendre, mais avec tant de réticence qu'il avait renoncé à savoir exactement ce qui s'était passé. Mondanel lui aussi ne chercha pas à savoir. Il se contenta de dire qu'il allait voir ce qu'il pourrait faire, se renseigner. Il demanda mon adresse pour m'écrire. Mon père s'empressa de la lui donner. Dès que nous fûmes dehors, je ne cachai pas mon inquiétude. Ce que je redoutais surtout, c'était l'enquête à laquelle Mondanel allait se livrer pour son compte personnel. Il avait beau avoir dit qu'il le faisait par amitié, que ce n'était pas le directeur qui agissait, mais l'ami, je ne croyais pas à l'oubli complet de la fonction sociale. Je ne le disais pas à mon père, mais j'avais le sentiment que Mondanel était avant tout fonctionnaire. En admettant qu'au début il fût plein de bonnes intentions, il n'était pas du tout certain qu'au moment où il aurait devant les yeux de vraies pièces officielles démontrant que j'étais un assassin, il ne changerait pas. Un autre danger se présentait à mon esprit. En admettant encore que Mondanel fût fidèle à son amitié, quoiqu'il découvrît sur mon compte, il pouvait commettre une imprudence, laisser paraître qu'il me connaissait, et des gens plus intéressés que lui à ma capture pourraient le mettre d'une façon ou d'une autre en demeure de me livrer, et il pouvait céder. J'avais tant d'appréhension que mon père lui-même ne me parut plus aussi confiant. Il était visiblement déçu. Il n'avait pas revu son ami depuis la guerre et il s'était imaginé que Mondanel allait se plaindre, lui dire combien il était pénible d'être obligé de travailler avec les Boches, etc. Il s'était imaginé que Mondanel allait lui faire part de ses scrupules, de ses débats de conscience, et au lieu de cela, il avait trouvé un homme, aussi cordial qu'avant, certes, mais secret, décidé, ayant l'air de très bien savoir ce qu'il faisait et d'en prendre la responsabilité, et aussi de ne tolérer aucune question familière à ce sujet. je commençais à comprendre que mon père regrettait de m'avoir conduit chez son ami, ce qui aggrava mon désarroi en me faisant entrevoir que quand on est dans l'ennui, les dangers viennent de partout, même de ceux qui nous veulent le plus de bien. Je dis alors à mon père qu'il serait plus prudent que je quittasse immédiatement la rue Rambuteau, puisque nous avions eu la bêtise de donner mon adresse à Mondanel. Mais mon père était un homme qui avait horreur de prendre des décisions rapides. Il croyait que Mondanel, en admettant qu'il fût amené à nous trahir, ce qui d'ailleurs paraissait invraisemblable, ne le ferait de toute façon pas immédiatement, qu'il commencerait d'abord par changer d'attitude, qu'il n'en arriverait là qu'après une lente évolution. J'observais que je préférais malgré cela prendre des précautions. Je voulais partir de suite, n'importe où, ne pas retourner chez ma tante de Mirat pour y prendre mes affaires. Mon père me dit qu'il ne pouvait pas m'abandonner ainsi à moi-même, qu'il allait me conduire chez son beau-frère Charles. Je protestais. Ce Charles était un brave homme, mais je ne me voyais pas habitant chez lui. Finalement, je pensais que mon père avait raison, que ce qui importait avant tout, c'était que je fusse à l'abri. Quant aux craintes qui m'envahissaient à propos de tout, il fallait bien que je me rendisse compte qu'elles étaient personnelles, que les gens, quels qu'ils fussent, ne les partageaient pas. Charles serait comme les autres. C'est comme quand on songe aux maladies qui nous attendent. À vouloir pour elles un médecin idéal, on resterait sans soins. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il faut se dire d'avance que celui qui nous soignera alors, qui essaiera de nous sauver de la mort, ne sera guère différent du pauvre petit médecin auquel aujourd'hui nous ne voudrions pas demander le moindre conseil.